accroché à un petit pont et tu plantes.
Rien à foutre, c'est mort.
Attends, 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 regarde.
Second poteau, Pavard.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut.
Et bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette cinquième saison de Rien à foutre, une saison qui va être encore riche, on l'espère, en carton. Et nous l'espérons avec Julien à mes côtés pour commenter l'actualité de la meilleure des manières. Salut Julien.
Salut Maxime.
Bruno à l'arbitrage avec qui il faut pas plaisanter, hein. Nous le renommerons un jour la gâchette. Il dégaine son carton aussi vite que son ombre. Salut Bruno.
Salut. On sent que la saison va être bonne.
Elle va être très très bonne, effectivement. Sylvain qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui tape du poing là où ça fait mal, surtout quand on parle de Malherbe.
Ah ouais, on touche pas au stade Malherbe, vous savez bien. Bonsoir à tous.
Et notre nouvelle recrue, nous l'avons teasé sur les réseaux sociaux, il apportera les gestes tactiques que nous n'avons pas forcément. Nicolas Vray, l'actuel entraîneur du FC Tambrainville, le Fresne qui rejoint l'équipage. Salut Nico.
Bonjour à tous, merci à tous.
Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Nicolas.
Ça fait réunion des alcooliques anonymes. Ah, on rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Je vais pas citer. Hein.
Non, mais bon, ça faisait quand même ça. Allez, au programme.
C'est ça, les gestes techniques.
Oui, oui, oui. Oui. Au programme du soir, nous recevons du coup le club du FC Auroconcours, actuel pensionnaire de notre championnat de départemental 3 du Calvados, Axel Chauvière. Bonsoir Axel.
Bonsoir, bonsoir tout le monde.
Président du club, et Ludo qui n'a pas pu se déplacer, mais on pense très fort à lui également.
On l'embrasse.
Dans le dossier du mois cette semaine, un focus organisé par les féminines du stade Malherbe avec les roses du stade, la deuxième édition dans le cadre d'Octobre Rose. Et nous serons avec Sylvain.
On sera avec Morgane tout à l'heure, donc par le biais du téléphone.
Voilà, dans le cadre d'Octobre
Rose.
Morgane
est en séance.
Exactement, avec les U11 et dans le cadre d'Octobre Rose qui lutte évidemment contre le cancer du sein chez la femme. Mais avant cela, je vous le propose de commencer avec les actus. C'est parti. Et on va commencer tout de suite avec le chiffre du jour, avec Julien.
Oui, et le chiffre du jour, c'est 14. Et oui, Sylvain, je te vois déjà sourire autant que moi. Ça faisait 14 ans que toi et moi, nous nous étions pas réveillés d'aussi bonne humeur au lendemain d'un classico. Ah ouais. Et oui, enfin, l'OM a battu le PSG. Certains diront que c'est l'équipe B, n'est-ce pas, Maxime?
Ouais.
Ou que l'arbitrage a été généreux pour l'OM. Bruno, tu confirmes?
Oh bah, généreux, non. Bon.
Bon, bref, rendez-vous l'an prochain. 14 ans plus 142 jours, c'est aussi l'écart entre les deux derniers buts en Ligue 1 de Youssef El Arabi, un record validé par Nicolas.
Tout à fait, c'est vérifié.
Donc l'ancien buteur du Stade Malherbe, parti pour claquer des buts un peu partout, hein, en Arabie, en Espagne ou en Grèce, hein, on laisse Chypre quand même, il a décidé de revenir en France à l'âge de 38 ans et a signé son retour en entrant et en offrant aux Canaries l'égalisation dans le derby contre Rennes, avec un joli but en fin de match à la 96e. La dernière fois c'était avec Malherbe contre Nice en 2011. Chapeau l'artiste. Et comme je vous aime bien, il y a un numéro complémentaire.
Ah.
Eh oui, ouais, va falloir changer la musique en fait, Maxime.
Ah bon ?
Donc ce sera le 5. C'est le nombre de pénaltys d'affilée arrêtés par Noah Atubulo en Bundesliga avec le FC Fribourg.
Ah, c'est pas très normal ça.
Oh, il n'y en avait pas eu 3.
Il y en a eu 3 il n'y a pas si longtemps.
Alors, dans le même match, mais là c'est sur 5 d'affilée en Bundesliga. Donc c'est peut-être pas sur 5 matchs d'affilée, mais en tout cas c'est pas encore arrivé et j'attends donc le prochain tacle assassin d'un défenseur Fribourg.
C'était contre Lille et l'arbitre a retiré 3 fois le même pénalty.
Ça c'était assez hallucinant.
C'était hallucinant, le tireur la place 2 fois au même endroit, là il change de tireur au 3ème pénalty, il la met de l'autre côté, le gardien va encore la chercher.
Et ce qui est surprenant, c'est que 3 fois les joueurs rentrent dans la surface avant que ça soit tiré, donc c'est normal qu'il soit retiré.
Voilà pour le chiffre du jour, merci beaucoup Julien. Nous passons maintenant à notre tacle du dimanche. Et le tacle du dimanche présenté par toi Julien avec le FC Auroconcours et aussi Bruno, tu as ramené ton invité Axel qui est présent sur le plateau du FC Auroconcours. J'aimerais bien Axel, tiens, revenir un petit peu sur la saison dernière, comment ça s'est déroulé un peu, raconte-nous ton sentiment.
Sportivement c'était une année assez incroyable parce qu'on a fini la saison sans défaite en championnat, donc ce qui est pas banal quand on a été joueur de foot et suivant peu importe le niveau à faire une saison comme ça sans défaite, c'est quand même assez, assez important. Donc sportivement, ouais, ça a été vraiment quelque chose d'assez assez incroyable. Et puis après, tout ce qui nous est arrivé autour avec bah, la sortie de maillot et un peu le bruit que ça a fait autour de tout ça, et la communication autour de la sortie de nos maillots et l'histoire qu'on a voulu raconter. Et ouais, c'est vrai que ça a soudé tout un groupe, que ça soit et sportivement et en dehors, où du coup on a créé vraiment une première page assez, assez cool. Ouais.
Et on a retrouvé aussi ce sentiment d'appartenance d'équipe, le fait de vivre des émotions aussi intenses comme ça, ça soude en fait une équipe.
Ouais, carrément, c'est exactement ça. C'est que quand on a repris le club, c'était la vision globale qu'on a, c'est ça, c'est comment valoriser en fait un club amateur, comment mettre en valeur le club de sa commune, comment arriver à faire venir des gens voir leurs frères, leurs fils, leur oncle, peu importe, voir leurs voisins, les voir jouer un dimanche après-midi, quoi.
Vous n'êtes pas parti avec une équipe de vétérans à la base ou...
Si, de base, le club perdurait un petit peu avec une seule équipe de vétérans qui faisait son petit bout de chemin, etc. Et puis, il y a eu un petit groupe d'anciens joueurs de Roquencourt qui étaient formés à Roquencourt à l'époque d'une école de foot dans les années du coup 2000 à peu près. Et par ce levier-là, en fait, ce groupe-là a voulu créer une équipe senior. C'est comme ça que ça a commencé, l'histoire a commencé, quoi.
D'accord, et c'est que le début d'une histoire, vous commencez à développer, équipe B, non ?
Ouais, depuis cette saison, on a une équipe B qui vient de se mettre en place, qui est invaincue pour le moment. On essaie de se structurer petit à petit, en faisant des choses bien, des choses moins bonnes, mais on est en vrai en phase d'apprentissage en fait. Et voilà, on a maintenant une équipe du 9, on a un arbitre, on a une équipe B et on a une équipe A. Donc la vision globale de tout ça, c'est d'essayer d'avoir une équipe de jeunes dans chaque catégorie d'âge assez rapidement, d'essayer aussi de trouver un deuxième terrain, parce qu'on n'en a qu'un à Roquencourt pour l'instant. On a la chance d'être suivi par une mère à Roquencourt qui aime bien le projet et qui se projette bien dans ce qu'on lui propose aussi. Donc voilà, on n'a que des voyants positifs pour le moment, et bah, pourvu que ça dure en vrai, c'est un peu ça le sujet.
Un jeune président quand même.
Oui, ouais, je sais pas si on peut dire j'ai 38 ans, alors est-ce que c'est considéré comme jeune président?
Je ne pas. Bah, alors vrai, selon les Canaries, oui, tu es dans la force de l'âge.
<C'est ça. rire> Mais oui, et puis novice, j'ai pas peur de dire ça non plus. Hein. J'étais joueur, j'ai joué pendant 30 ans dans plusieurs niveaux différents et tout. Donc je suis clairement un novice en la matière. Donc j'apprends et j'essaie de m'entourer de gens qui ont aussi des connaissances dans tout cet écosystème. Mais ouais, c'est ultra intéressant, ultra prenant aussi, mais ultra intéressant.
Mais quand on est jeune président comme ça, quand on arrive dans un club, ça doit être aussi compliqué. On apprend forcément beaucoup de choses. Donc les bénévoles sont d'autant plus importants dans cette situation.
Ouais, bah de toute façon, sans l'effet de groupe et en fait le fait d'avoir un bureau complet avec beaucoup de gens qui veulent donner leur temps pour l'association, sans ça, je pourrais pas faire grand chose tout seul en vrai.
Moi, c'est vrai que ça me vient à l'idée, c'est un petit peu, on a reçu des clubs hein, ici, je pense à Bali notamment, je pense à Courseul qui s'entoure vraiment, ils ont une équipe de joueurs déjà, de licenciés, mais ils ont aussi une équipe de bénévoles autour d'eux, quoi, qui est assez sympa. Je crois que c'est Bali qui nous racontait qu'il y avait un bâtiment à moitié monté et les bénévoles ont remis ça sur pied pour faire un clubhouse. J'ai trouvé l'histoire vachement sympa, ouais. Quoi.
Bah nous, on est là-dessus aussi. C'est vrai que avec tout ce que ça a généré au club et même en dehors du club, on a beaucoup de bénévoles. On arrive à faire des événements tous les ans. On a Castine en fête, donc c'est une fête communale. On a réussi à faire une soirée du foot, etc. Mais en fait, dès qu'on a des événements ou des choses qu'on veut faire, les bénévoles répondent toujours présents, en vrai. Et il y a vraiment... Alors souvent, c'est un peu galvaudé, l'effet de dire c'est un club familial, mais là, pour le coup, on le ressent vraiment. On sent vraiment qu'il y a déjà plusieurs vraies familles qui sont dans le club, des frères, des cousins, etc. Mais ça se ressent aussi, voilà, on a vraiment cet aspect très, très chaleureux, où les gens sont contents d'être ensemble, de se retrouver aux entraînements et aux matchs, quoi.
Nicolas, toi qui es dans un club, j'imagine que tu ressens un petit peu les mêmes émotions avec ton groupe.
Ah oui, bah c'est surtout, on s'aperçoit que c'est un club très convivial. Hein. Je pense que c'est la base d'un club de foot, entre guillemets, à ce niveau-là. Mais moi, j'avais une petite question à te poser, c'est quelles sont les ambitions à moyen terme, en fait. Alors, je te parle pas à long terme, hein, mais à moyen terme.
Non, bah là, l'idée, comme je disais, c'est de se structurer, que ce soit au niveau du bureau, que ce soit au niveau des règlements, que ce soit tout ça. Essayer d'avoir une équipe de jeunes dans chaque catégorie d'âge et après essayer d'aller au plus, niveau, au plus haut niveau départemental déjà, parce que moi je le pense, j'ai l'intime conviction qu'on a une équipe qui peut aller plus haut, les résultats pour l'instant le montrent un petit peu, et déjà être au plus haut niveau départemental et aller chercher un petit peu de R3, ça serait sympa en vrai. Je pense que j'aurais bouclé la boucle si on finit en R3, je pense que je pourrais passer la main, tranquille.
on reparle de toi en fin d'émission évidemment, Axel, pour parler justement de ses ambitions de cette saison 2025-2026 qui commence en trombe, on en parlera dans quelques instants. Une pause musicale avec une sélection de Bruno, autant que tu assumes désormais.
Ah mais j'assume parce que c'est l'ouverture de la chasse, la chasse aux cartons.
Avec aux Michel sorcières. Delpech alors, Michel Delpech le chasseur.
Il était 5 heures du matin, on avançait dans les marais, couvert de brume. J'avais mon fusil dans les mains, un passereau prenait au loin de l'altitude. Les chiens pressés marchaient devant dans les roseaux. Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait au bout des marécages. Avec mon fusil dans les mains, au fond de moi je me sentais un peu coupable. Alors je suis parti tout seul, j'ai emmené mon épagneul en promenade. Je regardais le bleu du ciel et j'étais bien. Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait au bout des marécages. Et tous ces oiseaux qui étaient si bien là-haut dans les nuages, j'aurais bien aimé les accompagner au bout de leur voyage. Oui, tous ces oiseaux qui étaient si bien là-haut dans les nuages.
Michel Delpech, c'est le chasseur sur Radio Toucan. Vous êtes bien branché sur Rien à Foot. Rien à Foot. Et sans plus attendre, maintenant on passe à la Coupe de France. Il y aura eu des surprises lors de ce cinquième tour de Coupe de France dans notre belle région Normandie. Cela a commencé de la meilleure des manières possibles avec ce choc entre l'Avant-Garde Caen en football face au Stade Malherbe. Sylvain, tu y étais avec moi pendant cette rencontre. Qu'est-ce qu'on peut retenir très rapidement ?
Ah, on peut retenir les 25 bonnes premières périodes du Stade Malherbe qui a su se faire respecter sur les 25 premières minutes. Et après, l'Avant-Garde a pris vraiment. A fait jeu égal, je trouve, avec le SMCE. Et voilà, il a fallu. Du changement, je pense, dans l'équipe du SMC avec trois rentrées. On a fait rentrer l'Armada du côté du Stade Malherbe. Et un but. Alors, il faut savoir aussi qu'on a eu des arrêts de jeu suite à des fumigènes donc, qui étaient hors du stade.
Oui.
Donc, l'arbitre a arrêté la rencontre deux fois. Deux fois. Et
10 minutes d'interruption totale, quoi.
Voilà, à peu près. Donc, on a eu du temps additionnel. On a eu beaucoup de temps additionnel. Et le Stade Malherbe a marqué dans ce temps additionnel sur un ballon qui rebondit sur la barre transversale qui est reprise de la tête. Je trouve trouve que l'avant-garde n'a pas à rougir. Voilà, c'est la Coupe de France. On aurait pu, ça aurait pu basculer, hein, parce que là, ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. On en parlait tout à l'heure en off. C'est vrai qu'il y a eu un pénalty qui n'a pas été honoré un petit peu avant. L'avant-garde a eu des belles situations. Et voilà, donc il y a un coup de dé, je trouve, en fin de match. Et voilà, je pense que l'avant-garde voulait aller au pénalty. Et voilà, donc c'est. Voilà, ils peuvent sortir franchement de la tête haute.
Le lendemain, nous avons eu aussi de belles victoires, à l'instar du SU Div Cabourg qui a respecté la hiérarchie en s'imposant 7 buts à 1 face au FUSC Bois-Guillaume, coûtant ce qui a fait plier le CA Lisieux 2-0. Le chemin vert a frôlé l'exploit contre Yvetot qui s'en sort 4-3. La Mosse est allée s'imposer à Eckerdreville 2-1. Les PTT, quant à eux, ont dominé Pavie 5-1 après une entame de match un peu compliquée là-bas à Bayeux justement, et a fait de même en s'imposant 3-0 face à Val de Ril. Et on finit par une victoire avec une saveur plutôt particulière, une victoire avec la plus petite des marges certes, mais une victoire arrachée de la meilleure des manières possibles, avec le courage celle de l'US Alençonnais 61 face au FCR 1-0. Nous sommes avec Vincent Legnaud par téléphone pour commenter cette belle victoire. Salut Vincent.
Bonsoir.
Merci. Bonsoir. Merci de nous rejoindre pour Rien à foutre ce soir. C'était un véritable choc, mais que fut la surprise au moment du coup de sifflet final?
Oui, c'était un match et comme on les aime, on pensait tenir, on pensait rivaliser, on pensait pas forcément gagner quand on a engagé ce match-là, mais au fil du match, on avait le sentiment qu'on était sur le niveau de ce match-là par rapport à l'adversaire, et qu'à tout moment ça pouvait basculer des deux côtés. Et comme je l'ai entendu tout à l'heure sur l'intervention pour Malherbe dans l'avant-garde, ça a basculé de notre côté à 7 minutes de la fin. Et après, on a fait du Alençon, quoi, oui. Avec beaucoup d'investissement, de courage, on a réussi à tenir le résultat.
Avec beaucoup d'humilité aussi, ton homologue Nicolas Vrel est présent sur le plateau. Il a sûrement quelques questions à te poser aussi.
Ouais, déjà, bonjour, salut Vincent, je te félicite de nouveau.
Merci.
Moi, ma petite question, c'est, tu as battu Le Havre il n'y a pas longtemps. Là, tu viens de battre Rouen. Quel est le plus beau des deux?
Bah, les deux sont beaux, si tu veux. Alors, le Havre était leader de Ligue 2 et le scénario du match a été un peu de folie puisqu'on a toujours mené au score. Jusqu'à la 90e et on fait 3-3 et au penalty, j'ai pas reconnu mes joueurs contre le Havre parce qu'ils avaient une maturité incroyable. On a marqué 5 penalty et Romain Guingamp nous sort un penalty. Ce match-là, dans son scénario de but, était merveilleux contre le leader de Ligue 1, mais celui de samedi aussi parce que c'était le leader de National et il y avait un engouement fort et puis on a aussi réussi à le jouer intelligemment pour l'emporter. J'ai envie de te dire, en bon normand, l'un comme l'autre ont été formidables.
Ouais, bon, bravo en tout cas sur cette belle performance, hein, puis je te souhaite que du bon pour la suite, hein, évidemment.
Merci, c'est gentil.
Ah, Vincent, bonsoir, c'est Sylvain.
Bonsoir.
Juste une petite question. Moi je suis pas entraîneur, je suis pas joueur, mais... Quand tu marques un but à la 84e comme ça, je pense que la fin du match, elle doit être très très longue, ces minutes-là, dans la tête des joueurs, dans la tête du coach aussi. Ça doit être très très long quand même.
C'est très long et en plus, on a eu 8 minutes d'arrêt de jeu justifié puisqu'en fait, le match a été arrêté de 3 minutes. Donc, ça a amplifié un peu les choses et on était perdu dans les arrêts de jeu parce que étant les arrêts de jeu, il y a eu un blessé pour Rouen qui a... occasionné encore des arrêts de jeu, donc on était un peu perdu et on a fait l'erreur ou pas, hein, d'ailleurs, mais on avait plus de pointe. Hakim, notre capitaine, notre leader, était très bas pour défendre avec tout le groupe et on n'avait plus du tout de positionnement en hauteur pour essayer de tenir ce ballon là et oui, il y a un ballon à la 96e minute. On le joue 5 fois, il marque 4 fois, et quand on dit, parce que notre défense a été héroïque, et tout le monde était au sol, le gardien au sol 2 fois, et quand on dit, quand on a la baraka, ben on l'a eu, mais on l'a provoqué, et on a malgré tout la balle de Tessier à la 99e pour le 2-0, quoi, donc c'est,
ouais, non, c'est ce qu'on appelle la magie de la coupe, quoi, tout simplement.
Voilà, c'est ça, et c'est exactement ça, c'est la magie de la coupe, quoi, voilà.
Merci.
Et nous, on a un parcours particulier parce que, on a tiré au quatrième tour le leader à l'époque de N3 chez lui. Là, on tire au cinquième tour simplement le leader de National. Et on fait des matchs, là on vient de faire deux matchs, on a l'impression qu'on est au 7 et au 8e tour, mais on est qu'au 6e et ça peut peut-être très bien s'arrêter dans 15 jours, donc c'est incroyable.
Et pour le prochain tour, t'as une petite préférence ?
Bon, tout va être dur, franchement tout va être dur. Je voudrais éviter de jouer à l'extérieur, donc surtout à Branche, Granville et Dieppe. Mais bon, avec la chance que j'ai, ça va être entendu. Parce que les N2 chez elles, c'est compliqué. Et puis, bien sûr, QRM et Malherbe. Mais QRM et Malherbe, tu les reçois chez toi, c'est une nouvelle fête. Donc, tu dis, bon, allez, t'y vas. Et puis, tu verras bien ce qui se passera. Mais après, les 6 R1 et les 2 R2 ou les 3 R2, ça sera compliqué, hein, très compliqué. Hein. Donc, Nicolas le sait très bien. Quand on en arrive maintenant au 6e tour, c'est la finale régionale. Et là, je l'ai vécu l'année dernière avec la Mosse où on avait dû aller à l'Aigle. C'était pas si simple que ça. Pour passer, on est passé, mais c'était pas simple.
Merci beaucoup Vincent et bravo à toi. C'est bonne bien. Continuation à toute l'équipe. Tirage au sort maintenant mercredi prochain à 19h. Merci Vincent.
Merci, à bientôt, au revoir.
Salut. Effectivement, donc on va attendre maintenant le 6e tour de Coupe de France. C'est vrai que Malherbe peut être tiré pour Alençon pour cette finale régionale. Et on aura justement cette prochaine salve de Coupe de France. Ce sera les 25 et 26 octobre prochains. Alors, concernant les championnats national, National 2, National 3, il n'y a pas eu de match ce week-end. Vous savez, c'est la trêve internationale. Mais enfin, quand même un point sur le début de la saison, avec notamment le National, Julien.
Oui, avec le FCR. On en parlait. On en parlait tout de suite. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait peut-être vérifier qui est leader de R1 ou de N2 pour avoir le prochain adversaire de Alençon.
C'est possible. Donc, effectivement, le FCR Rouen qui est en tête avec un point devant Versailles, 6 points d'avance sur le 4e.
Voilà, et Rouen qui marque pas beaucoup, mais finalement, je crois qu'ils ont fait 4 ou 5 victoires 1-0. Donc, c'est un très bon début de saison pour les Rouennais. Et c'est vrai que l'attaquant qui cartonne, il paraît qu'il aurait dû venir à Malherbe.
Effectivement, on parle aussi de la situation du stade Malherbe-Cohen avec 13 points, 6e en embuscade. A eu quand même pas mal de petites infos.
Franchement, il y a 10 jours, on aurait pu dire que c'était inquiétant. Là, la dernière victoire donne un petit peu d'air. Et puis, on va dire qu'on peut se prononcer à l'issue des deux prochaines rencontres.
Alors moi, je reste un petit peu sur ma fin, sur cette dernière victoire, parce que j'ai le match pour y avoir assisté, comme d'habitude. J'ai envie de dire, on joue l'équipe du Puy. Le Puy qui a été battu par Dive en Coupe de France l'année dernière, qui remettait à 80%, c'était la même équipe. On gagne, on est à 1-0 fin du temps réglementaire, on est à 1-0. Le Puy a une balle de 1-1 parce que franchement ils ont une balle qui passe au pied du poteau, qui est à 10 cm du poteau. Si elle est dedans, on est à 1-1, on met pas le deuxième but. Faut être clair. Moi je trouve que le stade Malherbe, franchement, honnêtement, si, avec les volontés qu'ils ont de remonter, sont pas transcendants. Et moi je voudrais saluer une fois de plus c'est les gens qui sont au stade, parce que pour une affiche, le stade Malherbe quand le Puy 43, on met 10 000 personnes au stade, c'est magnifique.
Bonos, peut-être Nicolas, vous trouvez que la situation est inquiétante pour Malherbe ?
Alors pour ma part, si on garde les chiffres, 13 points à un quart du championnat, on a la possibilité d'aller chercher des points supplémentaires. 55-56 points, tu es.
Je suis d'accord, Bruno. Une
60 points, tu montes. Donc ce qui veut dire que on s'inquiète.
Bruno, je suis entièrement d'accord avec toi. Maintenant, si tu veux, voilà, tu viens de le dire, on monte. Et pour monter, faut marquer des buts. Quand t'es en National, faut marquer des buts. Quand t'es en Ligue 2, faut marquer des buts. Quand t'es en Ligue 1, faut pas en prendre. Là, en l'occurrence, on n'a pas un tueur devant. On n'a pas ça. Moi, j'étais content de voir Grandouillet jouer vendredi soir, parce que c'est un joueur qui vient de Sochaux, qui a besoin de confiance, qui a besoin de reprendre confiance en lui. Il a marqué un but vendredi soir, c'est bien. Mais on a besoin de tueurs devant. On a besoin de marquer des buts.
Elle a été déviée, hein, la frappe de Grandouillet.
Oui, c'est pas lui en l'occurrence, mais bon, oui. il est à la base de l'action. Et voilà. Alors c'est vrai que sur les chiffres, oui, tu as raison. Sur les chiffres, on n'est pas perdu non plus.
C'est moins inquiétant que l'année dernière.
C'est moins inquiétant. Mais on a besoin, et quand tu as 10 000 personnes chez toi, dans ton stade en National, parce qu'ils vont aller faire des déplacements, ils vont être 600 dans le stade.
Nicolas, pour terminer.
Pour avoir très peu regardé de match, hein, j'y suis allé qu'une fois et regarder un match à la télé, on juge, le championnat national est très, très dur. Hein. C'est, tu parles de marquer des buts, mais je pense que c'est des matchs où il faut gagner, point. Pas bon ou dégueulasse, ça compte quand même.
Hmm. Après, c'est un championnat qui est très physique.
Ouais, au-delà de ça, mais après, si tu veux avoir des ambitions, il faut être efficace. Et être efficace, c'est même gagner 1-0, comme disait Julien tout à l'heure, pour Rouen. Mais c'est mettre un but de plus que l'adversaire, prendre des points, et puis on fera les comptes en fin de saison. Maintenant, c'est trop tôt de dire que Caen est dans les clous ou pas dans les clous. C'est Caen, on l'espère tous, qui remonte, mais la marche est longue.
Hein. Ouais, Julien, pour t'amener.
Ouais, moi, j'espère juste que très vite, Caen arrive à refaire peur aux autres. On ne fait pas peur aux autres. C'est ça, en fait, le problème. Quand on retrouvera une force de persuasion, on va dire, de dissuasion plutôt, on sera peut-être un peu plus à l'aise pour développer l'autre jeu. Là, ils veulent tous nous taper, hein. Donc c'est normal.
Il faut savoir le stade Malherbe, quand même, voilà, ils ont, moi, je trouve que c'est magique. Moi, le Puy, si tu veux, j'ai pas le souvenir que le Puy ait joué dans un stade comme le stade Michel Dornano.
Orthomat était pas mal. Quand même.
Non, Orthomat était bien. Mais je veux dire, par là, voilà, t'arrives dans un stade de 21 000 places, t'as 10 000 personnes qui sont là, quand même. 10 000 supporters qui poussent leur équipe. Il n'y avait pas un supporter adverse, tu dois les pousser. Mmh. Et je voudrais juste finir là-dessus, je voudrais saluer quelqu'un. On est suivi partout en France, dans le stade Malherbe. Il y a des gens ce soir qui nous écoutent ce soir, donc j'aimerais les saluer. C'est des gens que j'ai rencontrés cet été, qui habitent Liesse-Notre-Dame, un petit village à côté de Laon, dans le Nord, donc je voudrais saluer ce soir Amélie, Lila Piche, son fils Gabi qui va à l'entraînement avec le maillot du stade Malherbe, s'il vous plaît, sa fille Emma, et ses parents Manette et Mounette, voilà, qui suivent le stade Malherbe.
Et ben on leur fait de gros 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 bisous. National 2 désormais, c'est Avranches qui est à deuxième à 3 points du leader, La Roche-sur-Yon. Les hommes de Cédric Angebar sont sur une bonne dynamique. Granville 11e avec 2 victoires en 7 matchs. National 3, Vire est 5e du groupe C, qui est très très serré. D'ailleurs, les 6 premiers se tiennent en un seul point. Alençon par contre a quelques soucis en ce début de saison et ne compte qu'une victoire et un nul en 5 matchs. Dans le groupe D, c'est compliqué pour les Bas-Normands. Ils ferment la marche avec 0 pointé pour l'instant. En 4 rencontres, la réserve de Malherbe devance les Divets avec une victoire et Deauville fait mieux en étant dixième avec un nul de plus. La saison est longue, les adversaires de qualité, mais restons patients, nos calvadosiens vont finir par se réveiller. Et avant de poursuivre sur nos actualités régionales dont nous allons commenter la nouvelle formule, le retour de la musique avec Ed Sheeran, c'est Azizam. Vous êtes bien sur Radio Toucan pour Rien à Foutre.
Tomorrow can wait, freezing time in this place. Till the sun is away, like a magnet on me. I don't care what they say, we can do it our way. And if love's just a game, then come and play. They say we can do it our way, and if love's just a game, then come and play.
Sam Ed Sheeran, vous êtes bien branchés sur Rien à Foutre en direct sur Radio Toucan. Nouvelle formule, nouvelle idée, faire exploser les budgets carburants des équipes seniors, notamment en Régional 1 des clubs. 3 minutes pour décrypter cette nouvelle formule en un championnat plutôt relevé, reprenant déjà les bases ensemble. Ils ont décidé de faire la saison dernière de jeu réformer intégralement le championnat de R1 en mixant les équipes ex-Bama Normande et ex-Haute Normande. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Bruno, on a des équipes qui sont complètement hétérogènes en termes de proximité géographique.
Et ben on va dire que quand vous êtes de Cherbourg, vous allez à Saint-Marcel. Courage, vous êtes content.
C'est combien de temps pour faire ça? C'est 2 heures, 3 heures de route?
Cherbourg-Caen, c'est au moins 1h15. Allez, 1h45
par Saint-Marcel. C'est à côté d'Evreux, ouais.
C'est très simple. On est à 3h30, 4h de route pour 90 minutes de jeu. C'est super.
Alors, il y en a un qui est très content, c'est Lilian Lisieux. Il est
au milieu, lui.
Il est ravi.
Ça leur permet aussi au club normand, parce qu'on est en Normandie, d'aller voir autre chose comme club, parce qu'autrement on avait toujours les mêmes derbies. C'était d'apporter aussi une nouveauté, un nouveau souffle au championnat.
Alors, est-ce que là le tirage n'est pas forcément mal fait, en tout cas dans le sens où on a beaucoup plus d'équipes cannaises par exemple dans le groupe 1, et après on a quasiment toutes les équipes manchoises et Seine-Maritime dans le groupe B.
Là malheureusement c'est comme la Coupe de France, c'était un tirage au sort, donc ce qui veut dire que si ça nous plaît pas on rechange, on fait un tirage. Non, c'est pas possible.
Non, mais parce que là, le problème, c'est que pour les budgets des clubs, pour l'équipe de Cherbourg, de toute façon, bon, vous êtes déjà au bout du monde.
Donc, forcément. Cherbourg va retrouver, faut qu'il retrouve la nationale rapidement, avoir un club nord de Manche, là-haut. Faut qu'il puisse attirer. C'est le seul club. Après, vous avez Cœur-de-Ruille, Tour-la-Ville, mais c'est une terre de football là-bas. Donc, est-ce que ça va permettre? Ils sont déjà donc 6e, 3 points. On ne sait jamais. Avec un peu de chance, la Coupe de France, là, comme ils ont perdu contre Avranches, mais en ayant un beau match, qu'on puisse avoir encore là-haut.
Oui, pour décrypter très rapidement les résultats, pour l'instant dans le groupe A, il n'y a que les réserves de Granville et de Rouen qui sont premier et deuxième avec 9 points exactement. Suivi juste de très près derrière par l'Avant-Garde de Caen Football, donc qui a récupéré ses fameux 3 points suite au match forfait sur tapis vert de Dérouville.
Pas forfait, c'est encore une fois, c'est quand on est dans un club et le...
Alors forfait, oui, c'est perdu.
Axel, parle, s'encadrer de gens qui connaissent les règlements. Il y a des règlements, il y a des statuts, statut de l'arbitrage qui dit des choses. C'est publié, donc les secrétaires de club devraient aller voir ces PV où c'est marqué, vous avez le droit à 7 mutés, vous avez le droit à 8 mutés, vous avez le droit à 2 mutés hors période. Il faut s'impliquer, c'est juste lire ce qu'il y a. Donc malheureusement ça tombe sur Hérouville, mais d'autres en national ont eu cette mésaventure où ils pensaient avoir 6 ou 8 mutés, ils ont le droit qu'à 2. Faut écouter et lire les textes.
Effectivement, et dans le groupe B, on a le Havre qui est pour l'instant en pole position, l'équipe BIS, avec 7 points, suivi de très près par Saint-Lô et Avranches, tous les deux à 6 points. On peut quand même faire une petite mention spéciale pour l'entraîneur de l'AS Trouville de Villevillers, Marco Calamaro en R1 pour l'équipe B de Trouville, avec 5 points, ils sont 4e, donc pour l'instant ils font plutôt un bon début de saison.
Ben oui, puis le club a vraiment besoin aussi d'avoir une B qui performe à un niveau juste en dessous. Donc non, c'est une bonne nouvelle. Et puis on n'est pas surpris, quoi. On a un meneur d'hommes qui emmène cette B vers un peu titiller les autres. Et finalement, il y a quand même pas mal de B dans ce championnat. Et c'est intéressant aussi de voir que les B peuvent être aussi des matchs intéressants et pas seulement une mise en avant des... On va dire des équipes jeunes.
Pour le championnat de R1, on va passer maintenant au R2 et R3. Rien à foutre. Alors, R2, R3, en commençant par la Régionale 2, on va se concentrer spécifiquement sur le groupe B, le groupe qui... englobe plutôt les équipes autour de Caen, avec pour l'instant l'équipe réserve de Vire qui fait un carton plein, 3 matchs joués, 3 victoires avec la manière, suivie par l'équipe bis de la maladrerie Omnisport, pareil. Donc là c'est 4 matchs de jouer, une première défaite hein, pour la Mos, mais toujours avec 9 points, donc ça commence plutôt pas mal. Il y a aussi un club que je voulais mettre en avant, c'est la première saison de l'AS IF en R2 après la montée. 4 points, une victoire, un nul, 2 défaites.
Quelqu'un pour en parler de IF là?
Il y a un supporter de IF autour de la table.
Oui, totalement. Je ne dirais qu'un seul mot, AS IF. Ouais, vous n'avez pas la ref, c'est pour ça. Mes gamins sont en train de crier de l'autre côté.
Ah, d'accord.
Du coup, bah oui, c'est vrai que montée de niveau, donc l'équipe est plutôt pas mal, franchement ça avait bien commencé, et là c'est vrai que ça fait 2 week-ends un petit peu décevants, donc avec l'élimination en coupe, la défaite à domicile là contre la Ferté-Massé ce week-end, c'est vrai que mis à part ça, c'était plutôt un bon début de saison.
Et en R2, il y a quand même un club qu'on a reçu, qu'on disait c'est un club qui était hors de camp, mais qui fonctionne pas mal, ils sont 3e, Muance, avec donc une victoire à Dives sur Mer ce week-end.
Pas évident de gagner à Dives en plus.
Ouais. Nico, Muance.
Muance, il découvre ce niveau avec un entraîneur qui s'est emmené un groupe, un effectif jeune, mais moi je fais confiance à cette équipe-là parce que je pense que prendre des points à Muance, ce sera très difficile pour toutes les équipes. À l'extérieur, ils sont capables d'aller faire des coups comme ils ont fait ce week-end. Donc ils savent pourquoi ils sont là. Ils jouent le maintien, ils veulent se maintenir. Donc moi j'y crois, ce club-là. Après, c'est un championnat qui est très compliqué parce qu'il y a quelques réserves. Il y a des équipes qui montent, des équipes qui redescendent. Et le mélange de tout ça fait que...
Les niveaux se resserrent et sont de plus en plus complexes, même en régional 2.
Ouais, aussi, mais même jusqu'en la régional 3 également. Donc mais tous les niveaux sont régionaux sont très durs. Maintenant, faut essayer de créer une dynamique pour essayer de s'en sortir rapidement et pas trop tergiverser comme l'AJS Douvre en bas de tableau. Quoi.
Ouais, Bruno, la situation de l'AJS Douvre inquiétante sans toi?
Alors, la seule chose, c'est que l'AJS Douvre a eu la chance peut-être d'avoir eu un mécène à un moment donné. Est-ce que c'est bien d'avoir un mécène une année? Aujourd'hui, ils sont obligés de repartir depuis la base. Il faut les soutenir parce qu'il y a quand même une base de joueurs qui est restée. On le voit sur les réseaux sociaux qui essayent d'attirer la sympathie. Il faut le dire qu'il faut qu'ils se battent. Ça va être peut-être un championnat difficile, mais plein de clubs redescendent, c'est la vie, c'est un cycle, il faut y croire et se battre pour les couleurs de Douvres parce que c'est un grand club.
3 matchs joués, un nul, 2 défaites et ils iront aussi jouer leur match en retard face à la baie de Vire, soit le choc des extrêmes.
Ils ont perdu 11-0 ce week-end.
Donc il y a une réserve de déposer?
Le résultat n'a pas été mis.
Il n'a pas été mis, 11-0, waouh. Ok, il faudra rebondir alors. Régional 3
Attends, Maxime, moi je voulais juste dire un truc. Ça vous choque pas non plus là les distances? Parce que honnêtement, entre Condé-sur-Sarthe et Lillebonne, ça fait quand même un sacré grand écart. Hein.
Et parce qu'ils vont jusqu'au Portugal.
Lisbonne. Oh là là.
Rallume ton sonote.
Carton jaune.
C'est carton jaune.
Ouais, complètement. Bon, R3 très rapidement, on va venir parler surtout du groupe qui nous intéresse, à savoir celui de FC Tambrelleville Lefren, tiens, par exemple, la situation de ton club, Nicolas. Bon, est-ce que tu as envie de commenter un petit peu
Pas plus que ça. Après, c'est le début de saison où on a eu l'élimination Coupe de France qui a fait un petit peu mal.
Ouais.
Il y a des scénarios de match qui nous ont pas trop aidés jusqu'à présent pour essayer de prendre des points, mais là encore une défaite très frustrante ce week-end à la dernière minute. Bon, c'est le foot, c'est le début, mais
c'est le temps que tout se mette en place.
Je suis rassuré.
Mais donc, faut changer le coach.
ça peut arriver, mais je suis rassuré sur une chose, c'est le contenu, l'état d'esprit qu'on y met en tout cas.
Voilà,
maintenant, il faut que la réussite tombe de notre côté, et puis on espère avoir forcément des jours meilleurs et prendre des points dès samedi prochain. Donc,
pour rencontre contre qui?
La baie d'Hérouville.
La baie d'Hérouville. Donc, effectivement, là, il va falloir être très costaud.
Ouais, c'est ça. Mais
il n'y a pas un choc au sommet le week-end prochain, samedi?
Verson qui reçoit Bourguébu.
Voilà. Ça, donc oui. la buvette doit être ouverte.
Non, mais avec les saucisses. Encore une fois, je dis la même chose pour la R1 comme pour la R2, mais la R3 aujourd'hui n'est pas un petit niveau. Hein, c'est un niveau très important. Axel disait vouloir à un moment donné accéder à cette R3, mais
patiente. Hein. Là, il y en a 2-3 fous qui montent. Hein. on va les laisser partir.
Mais non, voilà, c'était juste pour vous dire que la R3 n'est pas un niveau si facile que ça, et tous les week-ends on le voit bien. Quoi.
Et on aura l'occasion de recommenter évidemment ces régionales. C'est vrai que là sur 3 minutes c'est relativement court, mais on aura l'occasion de revenir et de commenter aussi les résultats sur les prochaines semaines, surtout que c'est que le début de championnat, il n'y a que 3 voire 4 matchs de jouer, 4 journées plutôt de jouer, donc on aura l'occasion de revenir sur le sujet. Je vous propose de faire un petit tour, par exemple en Ligue des Champions. Jusqu'à la dernière note, hein. Oui, effectivement, vous n'êtes pas sans savoir. Ousmane Dembélé était à Évreux ce dimanche 12 octobre pour présenter son fameux ballon d'or.
C'est qui?
Tu es le rouge en fait. Tu le cherches, ton rouge. Et si je parle de ce joueur, c'est que nous avons parlé du Paris Saint-Germain, mais pas que, des autres équipes françaises également qui font sensation dans cette compétition. Oui, dont l'Olympique de Marseille. Effectivement, Sylvain, voilà, je flatte ton ego, un Parisien qui parle de Marseille.
Attends, j'ai pas très bien entendu.
Seuls Monaco et Nice ont rendu plus pâle copie en ce début, quoique PSG qui a battu l'Atalanta 4-0, puis le FC Barcelone 2-1. Début aussi reçu pour le champion titre qui confirme lui son statut. Mention spéciale donc pour l'OM qui, malgré avoir perdu sur la plus petite démarche de Buzyn au Bernabeu, a montré un vrai visage 4-0.
On ne parlera pas de l'arbitrage.
Et on parlera de la première victoire depuis 13 ans
en Ligue des Champions de l'OM. Ouais, parce que ça faisait longtemps que l'OM n'avait pas gagné encore en Champions League. Ouais, non, on parle même plus, c'était pas la Champions League à l'époque.
ça mérite un carton rouge.
Alors ça rigole, mais ça pourrait être bien aussi de comptabiliser les défaites d'affilée de Nice, parce que là ça fait quand même 3-4 saisons qu'ils nous font n'importe quoi en Coupe d'Europe. Faut les compter, je crois qu'ils vont battre l'OM dans pas longtemps.
On va en parler de Nice dans quelques instants, déjà pour la Ligue des Champions.
Mais plus sérieusement, moi je trouve que l'Olympique de Marseille a montré un très très beau visage cette année.
Oui.
Je trouve que l'équipe est complètement, il y a des joueurs qui commencent à trouver leur marque. Je pense à celui qui vient du Brésil là, qui met quand même son but l'autre fois est complètement magnifique. Moi le 1-2 je l'ai trouvé, il a montré dans les écoles de foot, hein. Je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais moi je pense que le 1-2 il est carrément à montrer dans les écoles de football. Et voilà, je trouve que l'OM monte en puissance. Voilà, faut pas que Marseille fasse du Marseille cette année, quoi, qu'ils aillent au bout de leurs choses.
Monaco qui a rendu aussi une belle copie en allant chercher ce nul face à City à Louis II, 2-2, prochaine rencontre les 21
et 22 octobre. Et quel deuxième but.
Ah ouais, il était magnifique, hein.
Mais magnifique.
Prochaine rencontre donc les 21 et 22 octobre à 21h, Bayer Leverkusen face au Paris Saint-Germain, Sporting Portugal, OM et Monaco Tottenham.
Par contre, j'aurais juste souligné une chose sur cette Ligue des Champions, c'est que moi il y a des joueurs qui, je pense à Mbappé qui claque à chaque match, je pense à, on parlait de Manchester City, Haaland qui claque à chaque match, et celui de Harry Kane qui claque à chaque match.
C'est trois top buteurs,
c'est impressionnant. Chaque journée de Ligue des Champions, il claque.
On passe désormais à l'Europa League. Tu en parlais, Julien, on va l'évoquer. Donc Lyon et Lille qui font le plein, Nice en difficulté, 6-6 pour l'OL et le LOSC, 0-6 pour Nice qui a dû se confronter quand même à de gros morceaux, hein. T'as le Lille Roma déjà, AS Roma et Fenerbahçe. AS Roma pour commencer, effectivement, c'est quand même un gros morceau. Lille a fait un exploit en battant Roma.
Ouais, mais il y a des manières de jouer, ils sont pas dedans. On sait que quand tu joues à Fenerbahçe, tu vas te faire taper. Tu joues différemment. Et là, on a l'impression qu'ils découvrent la Coupe d'Europe, qu'ils y vont.
Les clubs grecs en général, hein, c'est très dur.
Tu te souviens du générique de la petite maison dans la prairie, là-bas, la dernière qui court là. À chaque épisode, elle se vautre. C'est pareil pour Nice.
Attention.
Hein, on lui dit attention la pierre. Hein. Et non, elle tombe quand même.
Prochaine rencontre le 23 octobre.
J'ai la même sur le pilote du Titanic.
Oh là là. Non.
Hey, on est fort en ref. Hein.
Sylvain.
quoi.
C'est carton rouge. C'est carton rouge, je suis désolé. C'est 3 minutes d'exclusion. Prochaine rencontre, les 23 octobre, avec Olympique Lyonnais face à Bâle, Celta de Vigo face à l'OGC Nice, LOSC Paoka Salonique. On parlait de la Grèce, effectivement, le LOSC qui accueillera les Grecs. Et pour bien profiter.
Et Maxime, on peut déjà écrire notre papier d'avant. Et c'est vrai que Nice a encore perdu, mais c'était une belle équipe de Celta Vigo.
Carton jaune, vous voulez tous prendre des rouges, hein, c'est pas possible. Hein. Allez, pour bien profiter, avant de rentrer dans notre dossier du mois, je vais même me prendre un carton jaune pour de diffuser cette musique, hein. Rien de tel qu'un petit Gérard Blanc, et je parle pas de vin, évidemment. Une autre histoire, n'est-ce pas Nicolas, hein?
Tout à fait, une autre histoire.
C'est une autre histoire, ouais, effectivement. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Hein.
Ça me fait avancer. On oublie tous les gens, tous les naufrages, tous les bateaux touchés, coulés. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne sais pas pourquoi j'ai plus peur d'aimer. Elle dit j'imagine des musiques qui se dansent pour toi. J'imagine des mots dans le silence pour toi. Des jours et des nuits où la vie recommence comme ça, encore une fois. Et on démarre une autre histoire. Et on
Rado tu commences, rien à foutre évidemment. Oh, je sais plus parler, c'est compliqué là. Hein.
Rien à foutre.
Non, ou sinon ils vont dire que c'est le petit blanc que j'ai pris en trop. Oh là là là, bon c'est bon, je me mets un petit carton jaune et je vais laisser Sylvain très tranquillement parce qu'il reçoit une invitée ce soir, une invitée qui joue avec les féminines de Malherbe. Sylvain.
Ouais, on reçoit Morgane ce soir, donc qui est joueuse de l'équipe première, qui est actuellement blessée. Et Morgane est à l'association Stade Malherbe et elle s'occupe des roses du stade à l'occasion de Octobre Rose. Bonsoir Morgane.
Bonsoir.
Ça va? Ça a été ta séance?
Oui, super, je sors tout juste de séance, une petite.
Voilà, c'est
bien travaillé.
Pour ça que Morgane n'est pas en studio avec nous, parce qu'elle sort actuellement de séance. Alors raconte-nous un petit peu les roses du stade, c'est quoi?
Alors les roses du stade, c'est une action pour mobiliser et lutter contre le cancer du sein. D'accord. Donc l'objectif, c'est vraiment de faire de la prévention auprès de nos jeunes et en même temps de faire une action de récolte pour l'association de la Ligue contre le cancer du sein.
D'accord. Donc ça va constituer en quoi cette action? Alors qu'est-ce qui va se passer?
Alors nous, on a décidé de faire ça sur une journée. Donc ce sera le dimanche 26 octobre.
D'accord.
Donc on a décidé sur la matinée de 9h à 13h de faire un rassemblement avec des équipes U13 féminines pour faire ça autour du sport, pour aussi prendre ça comme un moment de partage. Donc une petite formule sportive le matin. Ensuite, sur le temps du midi, avec toutes les équipes qui auront participé au rassemblement, on veut mettre une petite action juste avant le match de la D3 féminine qui joue à domicile l'après-midi.
D'accord.
Et justement, pendant ce match-là, en même temps, faire un petit clin d'œil justement au cancer du sein et faire une petite prévention auprès du grand public.
D'accord. Donc on attend un petit peu de monde quand même pour cette journée-là.
Exactement. Que ça soit sur les parents des jeunes filles qui viendront le matin, qui sont aussi également invitées sur le match de la D3 féminine. Et puis les personnes qui viendront encourager également notre équipe première.
Morgane, il y avait une première édition là, enfin en 2024. Globalement, ça va être quoi les objectifs de 2025? Ça va être les mêmes? Ils ont été revus à la hausse peut-être?
Alors, on a revu justement un petit peu nos objectifs parce que celui de l'an passé était assez élargi. On avait quand même des clubs professionnels qui étaient venus. Que là, on a revu un petit peu et notre objectif premier, on s'est vraiment mobilisé sur le fait de récolter un maximum d'argent justement pour cette association. Donc on a décidé de prendre des équipes du plan régional et on a mis plusieurs petites actions comparées à l'an passé pour justement récolter des fonds.
Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'on peut déjà faire des appels aux dons avant ce 26 octobre pour soutenir votre tournoi, ou pas le tournoi ou rassemblement?
Rassemblement, oui, plus précisément. Alors nous, on a déjà deux grosses actions. Donc on aura une vente ambulante le match de la nationale, donc le mardi 21 octobre contre le FC Rouen. Donc les jeunes de la section féminine seront mobilisés pour vendre des goodies auprès des personnes venant au match. Il y aura aussi pendant le match de la D3 féminine. Et on a instauré du coup l'entrée payante de 2 euros, justement pour récolter un maximum pour cette ligue contre le cancer. Étant donné qu'on attend quand même pas mal de monde, on a fixé une entrée à 2 euros.
Et vous cherchez encore des bénévoles aujourd'hui pour vous aider dans l'organisation?
Il nous reste 2-3 bénévoles à trouver sur le plan de la restauration et buvette. Mais sinon, l'ensemble de la section féminine s'est mobilisée, donc on a quand même pas mal de moyens humains pour cette journée.
Et comment on peut vous contacter?
Il suffit de nous contacter, enfin de contacter l'association. Et puis après, si besoin, on mettra suite au nom.
Voilà, et donc ça permet également ce tournoi de mettre en avant la qualité de l'effectif de Malherbe notamment et d'autres équipes féminines, mettre un peu plus aussi en valeur le football féminin dans le cadre de ce mois d'octobre.
Exactement, c'est aussi le moment de mettre les filles en lumière sur une journée pour défendre justement cette lutte. Donc c'est cool pour elles.
Et Morgane, alors on t'a fait ta journée, on va te laisser tranquille un petit peu. Juste sur le plan un petit peu professionnel, le retour sur le terrain, c'est quand pour toi? On a échangé là-dessus il y a quelques temps, mais je crois que c'est on approche du terme bientôt là.
Il me reste un mois et 27 jours, mon coach me rappelle tous les jours combien de temps il me reste.
Ah, t'as des fourmis un petit peu dans les jambes là, un petit peu, je pense.
Ah oui, j'ai repris la course quand même, en tout doucement, mais. Malheureusement, le contact, ce sera qu'à partir du 10 décembre.
Parce que là, on reste sur deux belles victoires, je crois.
Ouais, deux très belles victoires. J'ai été voir avec la manière. Donc,
avec la manière.
Je suis contente pour les filles.
On a vu un très, très beau match à domicile la dernière fois. J'y étais.
Exactement.
C'est dans le cadre d'Octobre Rose, les roses du stade avec le stade Malherbe Caen le 26 octobre prochain, et c'est organisé par vous Morgane et ainsi que l'association Stade Malherbe Caen pour voir la qualité des joueuses, des jeunes joueuses justement, et c'est dans le cadre d'Octobre Rose pour lutter contre le cancer du sein. Merci Morgane d'avoir été avec nous.
Merci.
Et belle soirée à vous.
Bonsoir Morgane.
À vous aussi, au revoir.
Et avant de passer à notre dernière rubrique, le tacle de dimanche, le retour, on va parler des objectifs du FC Rocancourt. Moi, ce que je vous propose, c'est tout de suite de repartir en musique avec Psychiatre de la Rime. Et ça, c'est Sylvain qui l'a choisi.
Ouais, je l'ai choisi, voilà. C'est pour mes copains du Nord, là-haut.
Le temps d'un instant, évidemment.
Juste le temps d'un instant. pieds sur terre, les yeux vers le ciel. Les mains levées, on prie l'éternel. One love pour nos mères. One love pour nos mères. Juste un instant, j'aimerais prendre le temps de pouvoir revivre dans son ventre. Écouter son cœur, ce grand orchestre. Aimer de l'intérieur sans attendre un geste. Juste un instant, j'aimerais voir mon père qui m'avoue ses erreurs pour ne pas les faire. Le temps d'un instant, je veux croire aux rêves. Je veux croire au pardon, je veux croire nos lèvres. J'aimerais croire à notre relève, à ceux qui nous remplaceront dans les larmes ou dans les joies, dans les mosquées ou à la messe, dans les synagogues. One love.
Juste le temps d'un instant, voir la vie autrement. Se dire qu'il acceptera nos prières. Croire que demain sera mieux qu'hier. Le temps d'un instant, voir la vie autrement. La peur que le temps n'épargne pas nos mères. Croire que nos rêves traverseront l'hiver. Le temps d'un instant,
le temps d'un instant. Sortir la tête de l'eau, contempler le ciel et ses étoiles filantes. Ouais, juste un instant, m'imaginer auprès de ceux dont l'absence m'est douloureusement présente. Ouais, profiter de ce que le temps me vole, les caresses de ma femme et les fous rires de mes mômes. Ne plus les laisser sur le quai de mon train de vie. Leur dire que la vie est belle à la manière de Roberto Benigni. Un instant pour décrocher la lune à ma mère, ou pour mettre des drapeaux blancs sur des chars de guerre. Un instant pour imaginer Coluche ne pas avoir eu besoin de créer les restos du cœur. Un instant où la paix respire à plein poumon, où ma liberté roule à fond vers l'horizon, pour y voir un arc-en-ciel loin devant. Rêver
juste le temps d'un instant, voir la vie autrement. Se dire qu'il acceptera nos prières. Croire que demain sera mieux qu'hier. Le temps d'un instant, voir la vie autrement. La peur que le temps n'épargne pas nos mères. Croire que nos rêves traverseront l'hiver. Le temps d'un instant.
Donne-moi juste un instant pour implorer le Seigneur. Cesser les combats pour rendre enfin ce monde meilleur. Se retrouver 10 ans après.
Vous venez de l'entendre, c'était le temps d'un instant et c'était Psychiatre de la Rime. Dernière partie de cette émission, cette fois-ci encore consacrée à OFC Rocancourt, toujours avec Bruno qui est avec nous.
Oui.
Alors, avec ton invité Axel qui va pouvoir nous évoquer un petit peu plus la saison 2025-2026.
Alors, le paradoxe, donc on parle d'une saison 2024-2025 qui a été exceptionnelle, avec une finale gagnée, un été où on pourrait dire Dallas ou Sheriff fais-moi peur. Donc aujourd'hui, comment on fait quand on a eu ces bouleversements? Parce que quand un JDOG
de film, là, on est dans la rêve de film ce soir.
Voilà. On fait des, on va aller comme ça, personne n'est incriminé. Mais comment on fait quand on est pris dans notre club? Un coup c'est oui, un coup c'est non. Un pas en avant, deux pas en arrière.
Angèle.
Ça a été éprouvant tout l'été pour moi à titre perso, en vrai, où on n'a pas eu beaucoup de vacances avec ma femme, pour être honnête. Donc du coup, à titre personnel, c'était vraiment très lourd à porter. Et en tant que président, on doit pas non plus tout montrer aux joueurs et dire que c'est dur et dire que c'est compliqué, donc on a un double discours un peu à avoir, tout en étant le plus transparent possible. Moi, c'est ce que j'ai dit à tout le monde, de leur expliquer la situation avec les éléments qu'on a, leur faire comprendre ce qu'il en est à l'instant T. Et comment, pour répondre à la question, essayer de les garder, c'est même si c'est des joueurs de des 3, des 4, des 2 ou voire plus haut, c'est des joueurs qui sont des compétiteurs. Et quand on les pique un peu dans leur dans ce sujet-là, leur dire oui, on peut faire une deuxième saison en étant invaincu, on peut faire une deuxième saison en regagnant la même coupe, on peut aller loin en Coupe de France. Enfin, on a eu pas mal de leviers comme ça qui sont surtout axés sur le sportif. Et en fait, avec tout ce qu'on a construit sur les années précédentes, la saison précédente et celle d'avant, personne a vraiment voulu partir et dire non mais je m'en vais parce qu'on joue en Détroit. On a eu un seul départ qui était lié au professionnel, et on a eu beaucoup de demandes pour arriver au club aussi, qu'on a dû gérer aussi parce qu'il fallait créer la B, etc. Donc ça n'a pas eu de conséquences plus que ça sur le club et même sur l'ambiance du club. Maintenant, la saison de Détroit, elle est longue, on va avoir beaucoup de matchs compliqués, d'autres un peu moins forcément, mais donc faut essayer de rester mobilisé sur tout le long de la saison. On a dans notre malheur, avec la constitution de la B, ça fait aussi de la concurrence supplémentaire. Donc les joueurs sont un peu aussi voilà, conscients de ça. Et puis bah, j'ai la chance d'avoir aussi un très bon coach qui sait piquer là où ça fait mal quand il faut, et qui sait aussi avoir les bons mots concernant, enfin, suivant les matchs qu'on va jouer, quoi.
Oui, Sylvain,
j'ai une petite question, parce qu'on a reçu sur des émissions précédentes, on a même évoqué des sujets, je pense au club du Broyan-Auge, quand je dis ça, je parle de Bali, quand on a dit ça, des joueurs qui, des copains, c'était des copains, ils ont décidé de recréer le club de football, donc qui venait de différents niveaux, des joueurs qui ont joué en N3, qui ont joué en R1, donc avec certains niveaux, pour repartir vraiment au plus bas niveau. Est-ce que c'est un petit peu le cas au Rocancourt? Vous avez des joueurs comme ça?
Ouais, c'est un peu ça. Disons que les joueurs, donc les anciens de Rocancourt qui sont revenus à Rocancourt, ont joué à des catégories jeunes plutôt bonnes. Et puis, on a des joueurs qui sont révélés aussi. Je pense à 2-3, je pense à Quentin Boutré, du coup, qui s'est révélé en arrivant à Rocancourt, qui est arrivé, il était tout timide et tout, et maintenant c'est un peu la coqueluche du club, donc c'est aussi le travail du coach à ce niveau-là, de faire évoluer des joueurs. Et puis on a ramené aussi quelques éléments qui ont joué un peu plus haut, comme Daniel Brunard, qui est un peu connu, je sais pas, dans le milieu, que je connaissais un peu d'avant, et les anciens de Rocancourt aussi, qui ont un très bon niveau. Donc je pense que là, le niveau actuel de la D3, voire de la D2 est à notre portée. Faudra voir quand on jouera plus haut, ce que j'espère.
Il y a le fils à Ludo aussi qui doit jouer.
Le papa et le fiston qui a joué ensemble, c'est magnifique.
C'est rigolo, moi j'ai échangé justement là-dessus. Alors Théo, moi que j'ai eu quand j'étais éducateur à la MOS, que j'ai eu jeune, qui était déjà un bon jeune, très bon jeune. Maintenant, je pense qu'il a quel âge maintenant, Théo?
Il est tout jeune, je sais pas vous dire.
Il a joué en R3 à Verson.
Ouais. Ouais, ouais,
donc il a fait des matchs en R3 à Verson, il a fait des matchs en U18 à haut niveau régional,
très
donc,
bon
ce qui veut dire
aussi.
Très bon joueur, ouais. Et c'est un ensemble de choses.
On a des jeunes éléments comme ça aussi, on a Léo Bouchard aussi dans l'entrejeu, on a vraiment des joueurs de qualité. J'ai l'impression qu'on le coach du moins donne beaucoup de confiance à ce genre de joueurs, des jeunes joueurs, soit qu'on n'a pas su aller plus haut, ou soit qu'on voulait aller voir ailleurs et tout. Et c'est
ou
pas
des
parce
fois,
que...
c'est simple, hein, c'est quand tu as des très bons jeunes comme ça, si tu veux, ils sont en U11 par exemple, ou U13, si tu veux, on leur demande énormément de choses. Pour sacrifier un petit peu, si tu veux, cette jeunesse. Moi, j'en ai eu à la MOS. Hein. Je pourrais en citer à la MOS. On peut même parler du fils à Anthony, Bruno, et voilà, qui avait quand même des très très bons niveaux quand ils étaient jeunes. Et c'est vrai, je pense que l'exigence après du haut niveau, voire du très haut niveau, les coupe carrément, quoi. Et ils redescendent justement à ce niveau-là pour faire ce qu'on appelle du foot copain, quoi.
Ouais,
voilà.
Puis on a une question. Là, les joueurs que j'ai cités, qu'on cite, c'est une question de maturité aussi. On devient pas adulte ou jeune adulte tous à la même période. Et du coup, je pense que le fait d'arriver dans un club comme ça où il n'y a pas de pression, où on est qu'entre amis, où on sait se dire aussi les choses de façon très frontale au final, et de avec toute la bienveillance, parce qu'on est dans un club évidemment familial, je pense que ça révèle certains profils de joueurs. Et là, c'est le cas de Théo Françoise par exemple, qui se révèle, qui est titulaire quasiment indiscutable, qui fait de très bonnes périodes, très bons matchs, pardon. Et c'est aussi ça, en fait, le fait d'avoir un club familial et à ce niveau-là, c'est qu'on arrive à faire confiance à de nouveaux profils, en vrai.
Là on voit, donc vous repartez sur une dynamique, trois victoires, d'accord. On parle de seniors. Il y a eu un gros travail cet été aussi pour travailler sur des jeunes, une envie d'avoir une équipe à chaque niveau. Donc c'est peut-être là aussi de lancer un message à ceux qui nous écoutent pour développer ce foot chez les jeunes.
Une école de foot, carrément.
Ouais, bah on sait le projet, c'est le grand projet avec...
piocher Aïf.
Ouais. c'est le grand projet qu'on a de l'école. On a deux grands axes qui sont à développer, c'est le stade, enfin l'agrandir, et l'école de foot. Donc l'objectif, comme je disais juste avant, c'est d'avoir une équipe dans chaque catégorie de jeunes. Il faut pas aller trop vite, mais pas trop lentement non plus. Donc c'est un peu le sujet. Donc pour l'instant, on a monté une équipe du 9 avec des éducateurs qui aussi montent en compétences là-dessus. Et l'année prochaine, on va essayer d'arriver à faire U7, U9, U11, ça serait très bien. plus la B, plus les seniors, plus les vétérans, l'arbitre aussi qu'on a recruté aussi.
Ton arbitre.
Ça serait
c'est bien l'arbitre.
Ouais, c'est une des premières choses qu'on a fait. Enfin, on a essayé de le faire le plus rapidement possible parce qu'on savait que c'était un argument aussi pour la suite. Et voilà.
Allez, non, bon, et bon voilà, j'entends derrière Sylvain qui adore. C'est le premier supporter des arbitres, mais bon voilà. Donc heureusement qu'on a accès à la présidente qui vraiment a un dialogue positif dans le recrutement des arbitres.
Alors pas quand j'étais joueur, hein, je préfère le signaler. En tant que président, ça a pas mal changé, mais en tant que joueur, vraiment, je fais pas.
Putain, j'ai des amis tout autour de la table.
Je vais pas parler de mon expérience de joueur, juste celle de président. Ça suffira, ouais. Je pense.
Non, mais on l'entend. En tous les cas, c'est que Rocancourt, c'est une équipe non pas familiale, avec des projets. Est-ce qu'il y a des rendez-vous bientôt, rendez-vous qui vont aider le club? Est-ce que vous avez des animations que vous allez mettre en place?
Ouais, on sort nos nouveaux maillots courant novembre. Donc on sait que ça avait plutôt eu un petit succès. Nous, c'est aussi une rentrée d'argent supplémentaire au final, tout ce qui est vente de maillots et tout. On va avoir la soirée du foot forcément qu'on fait de façon annuel, puis on aura peut-être 2-3 événements comme ça dans l'année. Pour l'instant, on a un nouveau maillot et la soirée du foot, c'est déjà pas mal de boulot. Et voilà, en espérant que sportivement ça continue comme ça a commencé, quoi.
Merci président. Merci Axel Chauvière, président du FC Rocancourt. Très belle saison à vous.
Merci beaucoup.
Parce que ça va être difficile, mine de rien. Tout le projet est à construire, on l'a bien entendu. Donc on va suivre ça de très près, des districts départementales 3. L'objectif, la montée, on l'a bien compris.
Si on fait monter A, B, je reviens ici en slip.
Ah mais alors là, c'est noté. C'est noté.
C'est noté. Vous plaît.
C'est noté. Et il me semble même que sur cette émission-là, on devrait être sur Twitch.
C'est possible. C'est possible. On verra tout.
Je retire tout ce que j'aime.
Merci Axel d'avoir été avec nous. Merci aussi à toi Sylvain de mettre à chaque fois l'ambiance.
Mais de rien, c'est bien.
Merci à notre arbitre national Bruno.
Ah bah je sens que la saison va être longue.
mais non, ça va bien se passer, t'inquiète pas.
Merci Nicolas, très discret, mais
mais ça va venir.
C'est normal, c'est sa première.
C'est sa première.
Je rectifie si ça va pas.
Non, mais ça a été très bien. Première, il est venu les mains vides en plus.
Ouais, c'est ça. Ouais,
non,
c'est bien.
Mais non.
Les mains dans les poches. Il a eu sa petite discussion avec Vincent, il est content.
Oui, tout à fait. Très content.
Merci beaucoup, Julien, la coïde de toujours, d'avoir été avec moi. Ça va être dans 2 semaines la prochaine émission.
Exactement, dans 2 semaines. Voilà. La rediff, c'est prévu jeudi de 10h à 11h.
Voilà, un peu plus, hein. C'est affinité. Effectivement.
Ouais, c'est ça.
Et n'oubliez pas, effectivement, qu'avant ces 2 semaines-là, donc on va aussi mettre des choses en place sur Instagram, Facebook. Donc n'hésitez pas à nous suivre, RF Normandie sur Instagram et Facebook, rien à foutre. Et n'oubliez pas, d'ici là, qu'on en a rien à foutre.
Non mais accrocher un petit pont et tu plantes.
Rien à foutre, c'est mort.
Attends, regarde.
Second poteau, Pavard.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut.